Classique 21. Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Far away. C'est la troisième partie de Soundtrack et à l'instant, pour vous accueillir, hein, si toutefois vous venez de vous rejoindre, puisque vous arrivez quand vous voulez, évidemment, sur RTBF Classique 21, Peter Frampton avec Baby I Love Your Way, et c'est évidemment un morceau qui est tiré d'un album, je pense que c'est le moins que l'on puisse dire, véritablement emblématique, le fameux Comes Alive de Peter Frampton, et c'est à l'occasion du 50e anniversaire donc de cet album ici qu'on va vous proposer une spéciale avec Laurent Rippy. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Et donc avec un titre qui ne correspond pas vraiment à l'image que l'on se fait d'un album live traditionnel. Ici, Baby I Love You Way. Donc c'est un moment doux, presque intime, et pourtant ce morceau fait partie donc de l'un des plus grands succès live de l'histoire du rock.
Oui absolument, et c'est déjà toute la spécificité de Frampton Comes Alive qu'on retrouve ici, puisque c'est un album qui va devenir colossal, mais qui ne repose pas sur la démonstration ou sur la performance spectaculaire. Au contraire, c'est un album de proximité, de chaleur, de lien direct avec le public et surtout un album live qui va faire de Peter Frampton une superstar mondiale, alors que sa carrière solo était encore très très loin d'être confirmée à l'international jusque-là.
Oui, et effectivement, en 1976, Peter Frampton n'était pas un débutant, mais il n'était pas encore non plus installé au sommet. Il a connu très tôt le succès, notamment avec Humble Pie, ça on s'en souvient aussi. C'est un groupe majeur des années 70, c'est même avec Humble Pie lors d'un concert au Fillmore qu'il a obtenu sa fameuse Les Paul noire. J'avais fait un Guitar Story là-dessus à l'époque. Bref, donc il a tourné énormément, il a de l'expérience, mais il n'a pas encore cet album qui va tout faire basculer.
Mais non, en fait, en tant qu'artiste solo, il a encore un petit peu du mal à démarrer, et surtout, à ce moment-là, il n'a encore aucun plan prémédité. Avec cet album live, Frampton n'est pas en train de se dire « Ok, je vais enregistrer un disque pour conquérir le monde ». En fait, ce projet d'enregistrer un live de cette carrière solo, c'est presque une nécessité à l'époque. Hein. Frampton est avant tout un musicien de scène, il le sait, il le dit d'ailleurs lui-même, et à ce moment-là, il se sent beaucoup plus à l'aise sur scène que dans un studio d'enregistrement, et le live, pour lui, c'est l'endroit où sa musique est la plus vraie, c'est là où la magie opère, c'est là où finalement sa musique est la plus juste d'une certaine façon.
Ouais, je rajouterais même que ça s'entend immédiatement. Hein. Le public est omniprésent sur cet album. On n'a pas l'impression d'assister à une leçon de musique, mais plus à une conversation permanente entre la scène et la salle.
Exactement, et c'est ce qui va transformer certains titres studio dans de plus belles versions ici, déclinées en live, des morceaux qui existaient donc déjà auparavant, mais qui sur scène prennent une toute autre dimension, et c'est particulièrement vrai pour celui qu'on va écouter dans quelques instants, Laurent.
Oui, et c'est ce fameux Show Me The Way dans lequel on se replonge avec énormément de plaisir. Show Me The Way à l'instant, donc avec cette guitare parlante. Hein. Là aussi, ce n'est pas un titre qui est né avec cet album, c'est un morceau qui existait déjà dans une version studio sur l'album Frampton, qui était sorti un an auparavant, en 1975. C'est un titre qui était passé relativement inaperçu, mais qui est devenu ici totalement autre chose avec cette version live.
Ah oui, parce qu'en fait, sur scène, Frampton trouve quelque chose de totalement inédit dans son son, notamment, c'est pas le premier à le faire, mais en tout cas, c'est lui qui va populariser ça. Il va utiliser ce fameux talkbox auquel on l'associe immédiatement, et ça donne vraiment l'impression effectivement que la guitare parle. Et là, Laurent, en tant que guitariste, j'ai une question pour vous, parce que peut-être un mot pour expliquer ce qu'est exactement cet accessoire un petit peu étrange quand même.
Effectivement, et j'ai entendu souvent qu'on appelait Peter Frampton ou qu'on le surnommait Mr. Talkbox, mais vous savez qu'il y a un autre Mr. Talkbox.
Oui, effectivement, Joe Walsh.
Et non, pas non, du tout. Pas. C'est un claviériste américain, black, et qui chante notamment pour les églises, etc. Mais ce gars a un succès absolument incroyable. Il faut voir ce qu'il arrive à faire avec sa talkbox. Il s'appelle Byron Chambers et son nom de scène, c'est donc Mr. Talkbox. Alors, il y a évidemment, si on remonte à l'origine de cet appareil, ça, il faut remonter jusqu'à la fin des années 30. Et c'est un certain Alvin Ray, si je me souviens bien, qui a inventé au départ, c'est un donc quelqu'un qui faisait du radio amateur, et qui avait inventé un petit appareil qu'il avait utilisé tout d'abord avec son épouse, qui s'appelait Louise King, qui était une choriste d'un groupe qui s'appelait les King Sisters. Et donc elle était derrière un rideau, elle avait ce petit appareil qui était fixé sur sa gorge, et elle disait quelques mots, et c'était la guitare qui parlait. C'est assez amusant, hein. Mais alors il y a aussi d'autres musiciens qui ont utilisé ça dès la fin des années 60, c'était des modèles un peu différents de celui que Peter Frampton a utilisé. Un certain John Kay, Steppenwolf a utilisé ça aussi, Alvin Lee, Iron Butterfly, et puis c'est au début des années 70 qu'est sorti la LI Talkbox, et donc ça c'est le modèle qui a été utilisé par Peter Frampton, mais qui auparavant avait été utilisé par Joe Walsh, comme vous le précisiez ici. Alors c'est un appareil. En fait, c'est comme une espèce de petit diffuseur qui se trouve dans cette boîte, et le son, ça se branche entre la tête d'un ampli et le baffle. Et lorsque vous l'enclenchez, le son, plutôt que de partir dans le baffle, va partir dans cette petite boîte qui, elle, va renvoyer le son via un tuyau qui monte le long du micro et que vous mettez dans la bouche pour moduler et donc faire parler votre guitare. Seulement, il faut savoir que à l'époque où Peter Frampton l'a utilisé, les têtes d'ampli qu'il utilisait faisaient 100 watts. Ce qui veut dire qu'il se prenait 100 watts dans les gencives. D'accord. Et ça fait mal aux dents. Quand on l'utilise un certain temps, ça fait mal aux dents. Ça fait même sauter les plombages. Heureusement, aujourd'hui, il existe des systèmes beaucoup plus pratiques parce qu'il y a des préamplis à l'intérieur. Donc, on a plus problème de mal de dents. Et même Peter Frampton, sur les dernières tournées, ce n'était plus des têtes de 100 watts, mais des têtes de 50 watts. Donc, ça limitait déjà aussi la douleur que ça pouvait procurer.
Parce qu'il y avait effectivement des rumeurs à l'époque qui disaient que cette talkbox l'avait abîmé au niveau de la santé. Donc c'est plutôt au niveau des dents.
Eh ben oui, mais c'est tout à fait possible, ouais, effectivement. Mais alors, avec tout ce que je viens de vous raconter, il faut savoir que la talkbox n'est pas limitée aux guitares. Ça s'utilise énormément dans les claviers. Je parlais justement de Byron Chambers, donc ce Mr. Talkbox. Mais Stevie Wonder a été un adepte aussi très tôt de la talkbox sur ses claviers. Et puis alors, si on prend ce fameux morceau de Daft Punk qu'on écoute ici quelques secondes. Fameux Around the World, eh bien là aussi, c'était de la talkbox. Et puis alors, avec tous ces éléments réunis, Frampton Comes Alive, cet album donc bascule dans une autre dimension. Ce n'est plus simplement un très bon album live, ça devient carrément un phénomène populaire.
Un phénomène à tel point qu'il dépasse rapidement le cadre du rock pur et dur. L'album est partout, il se vend à une échelle folle, il devient presque un objet domestique, hein, et c'est ce succès hors norme qui va nourrir des années plus tard une blague devenue culte dans le fameux Wayne's World.
Oui. Je m'en souviens, effectivement, cette réplique qui suggère que le Frampton Comes Alive était tellement répandu qu'on aurait presque pu le trouver en cadeau avec des paquets de lessive.
Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est une moquerie plutôt affectueuse, hein, mais très révélatrice, puisque quand un album devient la cible de ce genre de clin d'œil dans un grand film comme ça, très populaire, c'est qu'il a marqué toute une génération. Donc Frampton Comes Alive est clairement entré dans la culture populaire. Il a dépassé le simple statut d'album live rock.
Et malgré cette image presque caricaturale du succès, l'album tient toujours remarquablement bien la route.
Et plus on le réécoute aujourd'hui, plus on se rend compte qu'il ne repose pas uniquement sur un son ou une signature, il y a un groupe derrière Peter Frampton. Et quel groupe, hein, Laurent?
Oui, et ça, Peter Frampton y insiste beaucoup, hein, dans son autobiographie Do You Feel Like We Do. Il parle même d'une véritable dream team, hein. Donc, à la batterie, il y avait John Syomos, qu'il décrit comme un batteur presque orchestral, capable d'installer des climats tout en apportant une puissance très profonde. Et on sent effectivement cette respiration, ce jeu très large qui n'est jamais écrasant.
Oui, excellent batteur. Et puis à la basse, Stanley Sheldon, un élément absolument central du son. Frampton souligne qu'il joue exclusivement, toujours dans son autobiographie, hein, sur une basse fretless à cette époque, ce qui apporte ce son assez rond, le toucher très rond, très fluide de l'album, et surtout une connexion parfaite avec Syomos, donc le batteur. Il parle, et ça c'est bien décrit, je trouve, dans son bouquin Frampton, d'un verrouillage rythmique total entre eux. Et c'est vrai que, quand on est, vous le savez, effectivement, Laurent, vous qui êtes musicien, que quand on a une rythmique impeccable derrière, on est très libre.
Ah, c'est du confort absolu. Et puis, alors, il y a aussi un autre musicien qui est souvent moins cité, mais qui est absolument essentiel.
Oui, il aurait été Bob Mayo, hein, guitariste, claviériste, il fait les chœurs aussi, Frampton. Compte qu'il ne joue jamais deux solos de la même manière. De toute façon, Frampton est assez libre comme guitariste. Et par contre, Bob Mayo, lui, était capable de le suivre instantanément, d'adapter ses harmonies en temps réel. Donc il y a une vraie complicité. Donc il sait qu'il peut se reposer sur Mayo pour lui répondre, même s'il change d'avis en dernière minute. Et Frampton le décrit, donc Bob Mayo, comme le socle harmonique de la formation. Il y a quatre musiciens seulement. Chacun doit être connecté aux autres et l'ensemble. C'est ce qui fait le succès de cet album, fonctionne extrêmement bien.
Ah oui, et c'est ce qui explique peut-être aussi cette impression de liberté permanente, hein, sur cet album.
Ah, exactement. Frampton dit que c'est à ce moment-là qu'il a senti son jeu passer, et je le cite, en cinquième vitesse. Que tout était en train de s'aligner, le groupe, le public, la confiance, tout était au rendez-vous, et tout était évidemment gagnant. Même si son nom figure seul sur la pochette, hein, ouais. Frampton Comes Alive, bien c'est avant tout l'œuvre d'un groupe uni.
Bah oui, en effet. Et alors, ce qui est frappant, c'est que ce lien à la scène, Peter Frampton ne l'a jamais perdu.
Ah non, hein, malgré les décennies, malgré les hauts et les bas, et malgré malheureusement la maladie qui a profondément modifié sa relation au corps et à l'instrument. On le sait, hein, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je pense que vous y étiez aussi, non, au concert
J'avais été le voir lors du dernier concert à Bruxelles, c'était au Cirque Royal.
Oui, j'y étais aussi, ouais. Effectivement, il jouait assis, ouais. Et tous les autres musiciens c'était d'ailleurs assis aussi pour ne pas le mettre mal à l'aise. C'est vrai qu'il a une maladie qui est assez importante, mais qu'il fait qu'il continue quand même à jouer, à tourner, à célébrer cette musique avec une immense dignité. Il n'a jamais voulu finalement devenir le prisonnier de Frampton Comes Alive, mais il a appris à assumer cet album, à le partager et à continuer à le transmettre aujourd'hui à de nouvelles générations.
Et alors, ce qui m'a frappé aussi lors du dernier concert, c'est qu'il y a toujours cette proximité avec le public. Il y a un échange constant avec le public, il bavarde avec...
Il y a une générosité qui émane du personnage, hein, qui est absolument incroyable.
Ouais, absolument. Et alors, cet album est finalement comme une histoire qu'on raconte encore, qu'on transmet plutôt qu'un exploit qui reste figé dans le passé.
Bah oui, c'est ça en fait. Et c'est sans doute pour ça que Frampton Comes Alive reste aussi vivant aujourd'hui, parce qu'il ne raconte pas seulement un succès commercial important, il raconte surtout un moment de vérité, un groupe, un public, un instant finalement où tout s'est rencontré, où tout s'est aligné, une photographie finalement parfaite de ce que la scène rock pouvait offrir de meilleur au milieu des années 70.
Voilà, et nous on va conclure cette séquence et cet hommage donc à cet album qui fête son 50e anniversaire avec un incontournable, bien entendu, c'est Do You Feel Like We Do, qui va arriver dans un instant, juste le temps de vous remercier, Laurent.
Avec grand plaisir.
Et de vous souhaiter un bon dimanche.
Bon dimanche.
Oh,
you feel like we do? Et là, on est nombreux, évidemment, à avoir savouré ce morceau absolument incontournable de cet album Frampton Comes Alive que l'on mettait à l'honneur ce matin, donc, pour ses 50 ans avec Laurent Riepy. Et alors, cet effet de Talkbox, eh bien, vous pouvez le faire chez vous aussi, si ça vous amuse, si vous avez, vous prenez votre GSM, votre téléphone, c'est mieux un smartphone, évidemment. Vous mettez un solo de guitare que vous trouvez, par exemple, sur YouTube, mais uniquement le solo. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres instruments, sinon ça va faire une soupe. Vous prenez simplement le son d'un solo de guitare et puis vous mettez le haut-parleur de votre téléphone au bord de votre bouche et puis vous essayez de moduler. Vous allez voir, vous allez retrouver cet effet Talkbox. Vous essayez ça, vous allez vous amuser. Faites ça entre vous. Croyez-moi, c'est bien rigolo.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.